Karate Kid avec Cobra Kai.
All right, you ready to begin your training?
Yeah, sensei.
What the? Oh!
Lesson one, strike first. Mercy is for the weak.
Le pop-punk avec le revival de Blink-182. Puis même les coupes longueuilles puis les permanentes.
Jeff qui me dit, là, moi, je m'en vais me faire faire une permanente.
OK.
Puis je vois que Nathan a une permanente.
J'ai pas de permanente, moi. Ouais, c'est mes cheveux à moi, ça.
OK.
Ça frise de même, moi.
C'est tout à ton nom.
C'est tout à moi, ça.
Boulevard 102. Le retour de la force de la radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. Cette journée-là était pluvieuse, on va se le dire, mais ne vous inquiétez pas, la fin de semaine s'en vient. Si je me trompe pas, c'est à partir de demain vendredi que le soleil va revenir, puis on sera peut-être plus gâtés, mais sinon ce soir, on parle de pluie jusqu'à demain. Mais on aura un beau week-end, donc on est dans les dernières fins de semaine pour faire de la moto, pas trop habillé. Après ça, ça va être le kit de skido au grand complet pour pas geler en faisant de la moto. Donc on vous salue, puis j'espère vous croiser en fin de semaine sur nos routes. Mon invité de ce soir qui va être avec nous pendant 60 minutes, c'est l'auteur du livre A1 l'invisible, on l'appelle C44 pour conserver son anonymat. Il est avec nous pour commenter la guerre actuelle entre les motards et les divers gangs de rue. Je pense qu'on peut dire ça maintenant. C44, salut!
Salut.
Merci d'être avec nous ce soir. On a fait un premier podcast où on avait parlé de ton livre A1 l'invisible, où tu parlais du cahier de Raymond Desfossés. Tu es un individu qui a rencontré cet homme-là, qui l'a côtoyé pendant des années. Tu l'as même remplacé à certains moments. J'avais trouvé ça très particulier. J'ai passé au travers de ton livre très, très, très rapidement. Livre que j'ai adoré, soit dit en passant. La guerre actuelle qui fait rage, est-ce que c'est quelque chose qui te surprend, toi qui as travaillé longtemps avec les motards, tu les as vus dominer. Tout le monde avait peur des Hells Angels parce que c'était comme l'instance qui punissait les gens qui allaient comme à l'encontre de leurs affaires. De voir que les motards, pour certains du moins, à certains endroits au Québec, ont un genou à terre, ça te surprend-tu ça?
Un genou à terre, c'est une grande expression. Oui, ça me surprend. On n'est jamais à l'épreuve des gangs montants. Le ménage se fait tout le temps. On est parti des Cotroni dans les années 60, les Rizzuto, l'Alliance Raymond, puis tout ça. Donc, c'est toujours du monde. Par contre, les Hells, c'est international. C'est une grande organisation. Ils ont possiblement un genou plié à terre, ces deux choses. Moi, je vois pas qu'ils vont se faire détrôner, je vois pas qu'ils vont se faire tasser.
Ouais. Qu'est-ce que fait la mafia présentement? La mafia qui a été affaiblie beaucoup dans les dernières années. Bon, on parle plus de la mafia italienne, nous autres, là, mais il y a d'autres mafias à Montréal. On pourrait peut-être en parler dans un autre podcast. Mais qu'est-ce qui fait que la mafia italienne ne semble pas nécessairement se mêler de ça? Alors qu'avant, tout le monde était assis à la même table pour être sûr de faire des affaires, que chacun ait sa petite partie du montant d'argent, puis qu'on se pile pas sur les pieds, puis qu'il y a de moins de morts possibles, puis que les policiers s'intéressent de moins en moins à nos histoires. Qu'est-ce qui fait que la mafia est plus là?
Les morts, il y a eu beaucoup de morts, et je soupçonne, ça c'est une théorie à moi, là, ils sont en arrière, mais plus loin. Ils sont plus dans la construction, ils sont plus dans des choses plus payantes, et je ne croirais pas qu'ils aient lâché la drogue ou le jeu, mais... ils sont plus loin. La mort de Vito est venue donner un coup et ils n'ont plus de personnes charismatiques. Tu avais Raymond, tu avais Vito.
Ouais.
Moi, j'ai toujours dit, ces deux gars-là, Raymond Desfossés, Vito Rizzuto, c'est le même homme, c'est le même niveau. Fait que ces gars-là, tout le monde dans le crime les connaissait, savait c'était qui et tout ça. Maintenant, les Hells Angels, ils font figure basse, ils run une grosse business. Selon moi, Raymond Desfossés, il a eu ses couleurs, ça a été dit par un délateur, un Hells Angels. Il a eu ses couleurs parce qu'il a donné sa run aux Hells, Puis il a fait une entente avec tout le monde. Puis maintenant, les Hells, ils ont l'importation. C'est eux qui ont l'importation. J'entendais Isabelle Richer, là, pourquoi ils sont à Cancun et tout ça. C'est un bel endroit pour blanchir leur argent, pour acheter de l'immobilier qui va prendre de la valeur.
Ouais.
Fait qu'ils sont rendus à cette étape-là. C'est des gars qui ont dépassé la cinquantaine, la quarantaine. Et je soupçonne qu'il n'y a pas de figure charismatique qui se présente en avant pour venir dire « OK, les gars, on s'assoit. OK, on va faire ci, on va faire ça. » Puis les nouveaux gangs qui arrivent, c'est des jeunes. Des jeunes qui
connaissent pas nécessairement l'histoire des Hells Angels.
Exact. Ben, c'est dur de ne pas la connaître. Là. Dans ces jeunes-là, il y en a qui ont sûrement rêvé de devenir Hells avant de devenir autre chose. Ils la connaissent, mais ils ne réalisent pas ou ils s'imaginent que non, mais on peut faire mieux. Puis dans d'autres parties du monde, il y a du monde qui ont fait mieux, puis on peut faire différemment. Puis on est capable. Au départ, ce qu'on a lu, c'est qu'ils ne voulaient plus payer le petit 10 %. Ils ont peut-être réussi à croiser des Mexicains puis avoir de l'importation. Moi, je le vois pas. Je comprends pas s'ils tassent les Hells, où est-ce qu'ils vont prendre leur coke. J'imagine que la nature horreur du vide, ils vont trouver, mais pour l'instant, importer des 500 puis des 1000, c'est pas donné à tout le monde. Fait que je vois pas pourquoi ces jeunes-là...
Quand tu dis des 500 puis des 1000, c'est 500 kilos, 1000 oui. livres de 1000 kilos de coke?
De cocaïne, okay. Exactement. Ça rentre dans un conteneur, ça a déjà été plus gros que ça.
Ouais. Ça, ce serait uniquement les Hells qui auraient ce réseau-là, qui appartenait à des fossés, qui a donné la run, finalement.
Exact.
Donc, les jeunes gangs de rue, selon toi, n'ont pas ce réseau-là qui est en place. Là.
C'est dur à mettre en place, mais ça a beaucoup changé. Là. Moi, l'opération Calvette, c'est 2004.
Ouais.
Je me promène, j'ai voyagé en Amérique du Sud, tout ça. Maintenant, c'est le Mexique depuis plusieurs années. Puis, ils essayent de s'implanter. Fait que s'il y a un caïd mexicain qui est déjà rentré à Montréal, puis que lui, il a sa run, puis il a payé le port, puis il a réussi à rentrer ses affaires, il peut chercher à vendre ailleurs, mais je vois pas. Faudrait que ce soit un compétiteur mexicain des fournisseurs qui fournissent déjà les Hells. Fait que c'est compliqué, là.
Les Hells auraient-tu avantage à mettre une figure sur leur groupe au Québec? Montrer qu'on a un chef, c'est lui le chef, ou cette personne-là serait trop en danger? Parce que je pense que c'est Martin Robert là, qui menait la ronde.
Martin Robert, puis Stéphane, je ne viens jamais de son nom de famille. Là.
Gamache. C'est-tu Gamache?
Non.
Parce que Gamache est à Québec, lui, dans le secteur de Lévis. Il y a des affaires dans le secteur de Lévis. Puis on disait que c'était Gamache qui emmenait très large dans la grande région de Québec. Mais à Montréal, c'est comme on disait, moi, c'était Robert qui faisait la run.
Puis Plouffe, Stéphane Plouffe, c'est ça, c'est Plouffe le nom de famille. Robert, Martin Robert, puis Monsieur Plouffe, ce seraient les deux têtes de Montréal dirigeantes. Et là-dessus, par contre, je m'attends à des arrestations qui ne viennent pas, mais ils ont été tous les deux perquisitionnés en janvier 2023 dans les maisons avec aucune arrestation. Mais ils sont partis avec des documents. La police, elle ne travaille pas pour rien. Fait qu'elle est partie avec des documents. Après janvier, il y a eu mai, Raymond Desfossés, et ensuite de ça, ils l'ont arrêté. Fait qu'il y a une enquête qui traîne quelque part où... pas suffisamment de preuves, donc ils passent pas au... Mais moi, je m'attends à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive de là. Mettre une face, pour revenir à ta question, c'est les Hells.
On parlait de la mafia tantôt. Là. Les Rizzuto, là, ils t'avaient toute une face. Là.
Oui.
Tu savais que c'était eux autres qui menaient. Tu leur regardais la face. Il y avait de l'air de monde que si t'étais pas honnête avec eux, ça se peut qu'ils soient très méchants à ton égard. Les Hells ne semblent pas avoir ça. T'sais, moi, quand j'étais plus jeune, tu nous as parlé dans ton livre, Maurice Momboucher, là, La Vidange, je pense que c'est comme ça que tu l'appelais. T'sais, nous, on nous disait à travers les médias que c'était lui le chef des Hells Angels. Puis il faisait peur. Grosse face, tout le gros sourire, alors qu'à mes yeux, à moi, quand tu te ramasses en dedans pour des meurtres, la dernière affaire que tu dois avoir dans ta face, c'est un sourire. Lui, il semblait tout le temps au-dessus de ses affaires. Tu savais que ce gars-là, si tu niaisais avec lui, il pouvait t'arriver de graves problèmes. Ils ont pas ça, les Hells, actuellement. Là.
Peut-être, mais lui, c'était quand même pas le chef des Hells.
Ouais, mais on l'a longtemps pensé, parce que les médias nous le laissaient croire.
Ben, c'était le chef des guerriers. C'était le bras armé des Hells. Lui était le chef du bras armé. Donc, oui, il était chef de quelque chose, mais c'était vraiment plus sa paranoïa. Pis...
Avec la mom machine, tu te souviens de ça?
Oh, oui. Et à cette époque-là, ils avaient les... les équipes de baseball qui battaient du monde régulièrement dans les piqueries puis dans les affaires qui étaient leurs concurrents. Donc ça a été une période violente et sauvage. Il y a du monde là, que j'ai entendu dire qu'ils ont peur que cette guerre-ci devienne pire, qu'on parle de 165 morts, c'est dur à battre. Ça, je ne m'attends pas du tout à ça. Et on voit déjà encore aujourd'hui, la police fait son travail, ils sont déjà d'avance, ils ont l'expérience de la dernière guerre, ils ne laisseront pas traîner.
Est-ce que... Bon, toi, tu es avec le cahier de Raymond Desfossés, là. Est-ce que ces gens-là ont des caches d'armes?
Ah oui, ça c'est... On en avait. Il faut en acheter, il faut toujours savoir qu'on en a. On avait de la dynamite, on avait... Il y a bien des choses, là, qu'il faut des caches d'armes. Ça prend... C'est là-dessus que j'ai travaillé un petit peu pour Raymond. Moi, je fournissais des papiers pour louer des appartements secrets avec un nom legit, un nom qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. Donc, on avait des endroits cachés. Raymond, ça, c'est une affaire que j'ai pas mentionné. Ça va être dans le prochain livre, parce que je suis en train de l'écrire.
Je charge 10%. C'est moi qui t'ai fait penser à ça. Je charge 10%.
Raymond, il cachait souvent... Il y avait plusieurs voitures de collection qui n'étaient pas à son nom.
Ouais.
Puis, il mettait une toile dessus, puis il remplissait le coffre. Fait que c'était dans un parking souterrain, dans un bloc, puis tu voyais ça, puis un vieux Camaro ou un vieux Thunderbird, puis non, dans le coffre, c'était une cache. Fait que lui, ses affaires traînaient là, et aussi, ben ça, je pense que j'en ai parlé, là, des murs de Duproc. Des appartements des murs de Duproc, lui, il remplissait ça.
Il remplissait ça. Donc, il pourrait y avoir des appartements dans le Grand Québec où on ouvre les murs puis on tombe sur des caches d'argent.
Exact. C'est déjà arrivé. J'ai vu un...
T'as-tu une liste? Tu te promènes avec une liste quelque part?
Non, malheureusement. Je ne l'ai pas eu quand à son décès. Je n'ai pas reçu de lettre du notaire pour... Non, j'ai rien de tout ça. Mais je soupçonne que quand quelqu'un meurt rapidement... il pourrait y en rester. Mais moi, c'est surtout l'argent pourri qui devrait rester dans le nord, là, dans les barils. Ça, c'est l'argent de Dounier puis de d'autres. Mais ça, il doit en rester encore parce que je suis sûr que ça n'a pas tout été trouvé. Puis Dounier, lui, était décédé subitement. Il ne s'attendait pas à ça. Il était dans la quarantaine. Puis un de ses chums qui vient le tuer, personne ne s'attend à ça. Mais le fait que lui, il est parti avec quelques secrets, sûrement.
T'avais-tu la chienne? Quand tu es avec Desfossés, parce qu'aujourd'hui, bon, j'ai la chance de te côtoyer. Ça fait deux fois qu'on se rencontre. Je veux dire, les histoires que tu nous racontes à travers ton livre A1 l'Invisible, c'est une vie assez particulière que tu as vécue. Tu as rencontré des gens qui étaient très dangereux. Puis tu sembles pas être un gars très stressé, là. Puis j'imagine que c'est ça que ça prend pour être dans ce milieu-là. Là. Je pense que quelqu'un qui est hyper stressé, il monte pas vraiment dans la hiérarchie. Là. C'est pas ce gars-là qui aurait remplacé Raymond Desfossés comme toi. Là.
Exact. Non, c'est. On peut mettre ça sur le dos de l'inconscience, peut-être, en quelque part, mais j'ai, ce que un psychologue m'avait déjà dit, une tolérance au risque plus élevée que la moyenne.
Ouais.
Fait que je me suis fait squeezer une fois dans un banc. C'était un gars, on faisait affaire ensemble, c'était un Irlandais. Puis tu m'as dit, parce que je croisais Raymond, puis ça, mais Raymond, c'était ma carte maîtresse à moi. À un moment donné, il s'assoit en avant de moi dans un petit restaurant, une booth, puis là, son homme s'assoit, moi, je m'assois en face, puis là, son homme vient s'asseoir, puis là, je peux plus sortir, là. Il est assis à côté de moi, puis il y a des choses pas gentilles à me dire.
Okay. C'est intentionnel, là, son positionnement.
Oui, exact. Fait que quand tu sens que, il vient s'asseoir de mon bord, puis il me squeeze, puis c'est un gros garçon qui était là. Puis là, j'ai dit « Non, c'est parce que tu sais que je travaille pour le petit. » Ça a tout calmé. Ça a arrêté là. Puis de toute façon, l'événement qui s'était passé, qui sera dans le prochain livre, là, c'était pour de l'argent, une couple de 100 000 qui était partie à gauche. Et j'étais pas, j'avais aucun tort. Là. J'avais aucun tort. C'est lui qui avait mal fait son affaire. Puis là, il me revenait. Puis j'avais fait quelque chose pour lui. Moi, j'avais bien fait ma job. Lui, il avait mal fait la sienne. Là, il me revenait. Puis là, ben, c'est plate. C'est ici, c'est pas de mes affaires. Puis moi, je travaille pour le petit. Fait que c'est là que ça avait arrêté. J'avais cette... Et très peu de gens le savaient. Fait que lui, je lui ai dit, parce que lui, il travaillait aussi avec le petit. Fait que à ce moment-là, ça avait calmé les affaires.
Le petit était Raymond Desfossés?
Oui.
OK. Pourquoi on l'appelait le petit alors qu'il était très craint et très respecté à la fois?
C'était son surnom de bonhomie. C'est le petit. Il est tellement fin. C'est un gars, c'est un gentleman. Son premier surnom, c'est le gentleman. Le petit, c'est entre nous. Quand on disait le petit, mais tout le monde savait que le petit, quand il arrive, Mme Boucher, il a rencontré le petit. Puis, c'est toi le petit. Puis tout le monde savait ce surnom-là. Il n'était pas hyper grand, mais pas petit non plus.
Là. C'est un genre de quoi? 5 et 8, 5 et 9?
Ouais. À peu près.
Qui était la taille moyenne des hommes de son époque. Là.
Exact. Ouais. Mais Bosco, là, puis batailleur de rue d'enfance, ça traîne pas. Là. Dans leur tête, ces gars-là, moi, je suis jamais battu. Dans sa tête, le premier qui frappe, c'est lui qui gagne. Fait que quand ça commence à monter les paroles, lui, il frappe tout de suite.
Puis le cache, est-ce que vous étiez tout le temps au courant de où est-ce qu'il, par où est-ce qu'il transitait, où est-ce qu'il était caché? Je veux dire, j'imagine que c'est quand même assez restreint là, comme information. T'sais, des fausseux savaient où il y avait de l'argent, mais il pouvait pas être le seul à le savoir, parce qu'en même temps, c'est pas lui qui allait la cacher. Y avait-tu des hommes de confiance qui cachaient cet argent-là pour lui?
J'ai pas été là tout le long de son organisation, mais Raymond travaillait, il a été formé par le policier que je mentionne qui s'est suicidé. Il travaillait avec, comme l'armée, avec des blocs dans sa tête. Je pense qu'il faisait pas mal tout lui-même. L'argent était distribué, était ramassé, et quand ça finissait à lui, plus personne ne savait où ça allait. Mais techniquement, ça retournait dans son bas de laine, puis l'autre, c'était pour continuer la business, pour l'importation, puis tout ça. Donc, ça revenait dans les familles de Colombie, Venezuela, ces endroits-là où il y avait ses contacts. Mais c'était pas... Pour les affaires que je dis, il pouvait parler à 5 personnes dans la journée, puis il allait dire à 5 personnes, chacun, une partie de ce qu'il devait faire.
Donc,
mais personne ne savait
le casse-tête au complet.
Le casse-tête au complet.
Donc, il donnait des morceaux de casse-tête à certaines personnes.
Exact.
Puis, mais à la fin, il y avait un gros topo. Là.
Puis dans
c'était un tableau. Ouais, là.
Okay. Exact. Lui, il savait où il s'en allait. Et moi-même, je l'ai vécu. Il m'a invité. Je vais finir la première histoire. En même temps qu'il donnait le morceau, toi, tu as ça à faire tel jour, telle date, pour 500 kilos qui vont arriver le mois prochain. À l'autre, il disait pour 1000 kilos qui vont arriver la semaine prochaine. À l'autre, puis à un moment donné, une semaine après, un jour après, il recevait un coup de téléphone. « Je peux-tu t'aider pour ton 500? » Oh!
Il savait qui avait parlé.
Qui avait parlé.
Ouais.
Fait que lui, il était vraiment comme ça. Un matin, il m'appelle.
T'es extrêmement intelligent, là.
Oh oui, c'est un cerveau. Et ouais. Charismatique. C'est pour ça que tout le monde se ramassait en arrière de lui, parce que il disait oui, il disait oui. Si tu avais été fiable pour lui, il a protégé un gars, Panache Tremblay, pour ne pas le nommer, pendant des années que tout le monde savait qu'il parlait à la police, qu'il était cocaïnomane, qu'il ne payait pas ses dettes. C'était toujours Raymond qui le protégeait parce qu'il avait rendu des grands services à Raymond. Si tu lui as rendu des services et tu as été fiable avec Raymond, il ne t'oubliera jamais. Puis un moment donné, c'est ça que j'allais raconter, il m'appelle. Ça faisait 2 semaines que je travaillais sur des entrepôts secret. Et puis, il m'appelle un dimanche matin. Ben, la veille, il me dit, demain matin, on se voit aux cheveux. Aux cheveux, ça, c'était notre place. C'était un nom de code pour un endroit près d'un salon de coiffeur. Et quand je suis arrivé là, c'est la seule fois que je l'ai vu détimé. Première page du journal de Montréal, 5000 kilos saisis dans le port, dans la nuit. Puis c'est ça que je m'en allais décharger ce matin-là, que j'avais produit ou créé des entrepôts pour ça. Puis je le savais pas. Le matin que je suis arrivé là, je savais pas c'était quoi que j'allais faire.
Puis lui, il était un peu débiné de tout ça, là.
Jusqu'à 1h de l'après-midi. À 1h de l'après-midi, il m'a appelé, tout va bien. Mais c'est la première et la seule fois que je l'ai vu. Comme je dis souvent au monde, c'est le seul gars que je peux dire qui a plus de morale que moi.
Malgré le fait que lui, il a tué des gens, là, il a commandé des meurtres, là.
Oui. Ça l'arrête pas.
Est-ce que C-44, puis là, moi, je suis très curieux dans la vie, là, mais des fois, je veux pas que tu te mettes dans le pétrin non plus. T'as-tu déjà été au courant de commandes qui avaient été faites, puis tu disais, OK, ben lui, ça va se passer demain, ça va être terminé pour lui?
Non. J'ai su des par après. Mom Boucher s'est fait essayer 3 fois que moi, je sais.
Ouais.
De gars qui étaient autour de Raymond, puis on l'a manqué à telle place, puis tout ça. Il est béni des dieux. La police a l'obligation de protéger la vie de n'importe qui. Moi, j'ai un de mes chums qui vient me voir un matin et il me dit « Hein, la police est arrivée chez nous hier. Comment ça? » Ils m'ont dit de ne pas sortir ces jours-ci. Il y a quelqu'un qui veut me tuer. Ils ont entendu de l'écoute électronique. Ils ont entendu un complot contre lui. Ils sont allés le voir. Puis c'est un mafieux de Montréal. Mais ils sont allés l'avertir. « Fais attention. » Il y a du monde qui veut te tuer, on ne peut pas te donner l'information, mais dans les jours prochains, ils veulent t'essayer. Fait qu'il le protège. Fait que dans le film, le Confession de Luc Picard, quand Galland manque Mom Boucher, C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, mais c'est à peu près ça. Ils sont venus l'arrêter dans le film pour le meurtre, la tentative de meurtre sur Michel Auger, le journaliste, mais c'est pas tout à fait ça. Galan y allait et 3 chars de police sont apparus. Il faisait juste le protéger. C'est pas, la date n'est pas exacte avec la tentative de Galan et la tentative de meurtre sur Michel Auger puis l'arrestation. Mais ils l'ont quand même protégé parce qu'ils savaient ce qui s'en venait. Okay. On ne sait pas comment ils ont su ça, parce que Galan, c'était un gars secret puis tout ça, mais ça faisait un bout de temps. Il a surveillé un bout de temps puis tout ça. Et je ne sais pas qu'à cette époque-là, déjà, Galan était dans le viseur des policiers, mais ils ont su quelque chose. Même dans le clan à Raymond, il y a du monde qui ont parlé des fois. Pour d'autres raisons, pour le 5000 kilos, on n'a jamais su qui l'avait donné à la police. Fait que ça venait de l'intérieur, là, ça venait de nous autres.
Là, je vais te poser des questions. Des fois, les auditeurs disent... parce que je me garde souvent des gênes en ondes parce que je veux pas tout dire, parce que je me dis, si je dis ça aux auditeurs, ils vont dire « Chris, il est fou, il invente des affaires. » Mais là, vu que toi, tu es dans le métier, tu as été dans le métier, c'est-à-dire je peux jaser de tout ça avec toi, puis les auditeurs l'apprendront par ta bouche. Mais est-ce que tu as déjà eu connaissance? En fait, dans ton livre, tu nous parles de Raymond Desfossés, le caïd, qui avait des contacts étroits avec la police. Est-ce que les méchants travaillent avec les bons des fois? Puis est-ce que les bons travaillent avec les méchants? C'est-à-dire que, est-ce que Raymond Desfossés a déjà rendu des services aux policiers en échange de services pour lui-même par la suite?
Ce sera probablement jamais prouvable physiquement. Mais oui, ça existe. Ça existe dans le sens où, en ce moment, avec le BFM puis les gangs de rue et tout ça, si les Hells savent où est-ce qu'ils sont puis où est-ce qu'ils vont importer quelque chose, les Hells vont le donner à la police. Contre, lâchez-nous un petit peu, nous, on protège votre ville, on essaye de ne pas faire de violence, on est rendu tranquille, lâchez-nous un peu, nous, on va vous donner ce qu'on peut. Fait que ça, c'est des ententes qui se font. Dans les années 50, ça a été documenté sur Wikipédia, ça se trouve.
Dans la police de Montréal, il y avait des ripoux épouvantables dans la police de Montréal. Là.
Et des tueurs.
Et des tueurs, oui.
Exact. Fait que ça, c'est quelque chose que la police ne pouvait pas se permettre. Et une fois qu'ils ont démantelé l'escouade de tueurs de la police, ils se trouvaient bien mal pris pour faire les jobs parfois nécessaires. Fait que là, c'est là où, avec Raymond, ils avaient un bras armé. Un bras pour faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire.
C'est gros, ce que tu dis là, là. C'est l'information que moi j'avais, mais tu sais, quand je dis ça aux auditeurs, je veux pas qu'ils me prennent pour un fou. Toi, tu étais dans le milieu, tu me confirmes que c'est déjà arrivé.
Oui, tout à fait. Ça, les criminels, des fois, ils se font arrêter pour un ticket puis sont prêts à parler au policier qui lui donne le ticket. Lâche-moi le ticket, là, puis je vais te donner quelque chose.
Je vais te donner quelque chose.
Ouais. Ça, c'est pas des vrais bons criminels, là, mais ça existe.
Y a-t-il ça peut-être 3-4 mois, puis on est encore avec la guerre entre les Hells Angels puis BMF ou BFM?
BFM.
Ouais. BFM?
Blood Family.
Ouais. En quelques heures, les policiers se sont ligués, puis il y a eu une grosse opération policière à la grandeur de la région de Québec, puis il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines d'arrestations. Puis moi, j'avais eu de l'information comme quoi il y a des Hells Angels qui s'étaient mis à table pour donner les adresses des individus qui devaient être arrêtés, et les policiers ont embarqué un peu dans cette affaire-là. C'est-à-dire, OK, ouais, Chum Apic, il reste à telle place. OK, qu'est-ce qu'il fait, lui? OK, lui, il a fait telle affaire. Parfait, merci. Et à partir de ce moment-là, les policiers s'informaient sur cet individu-là. Il y a eu de l'information très rapide qui a été donnée au service de police, qui fait en sorte que quand sont arrivés des policiers de partout, là, puis c'était pas des petits policiers, honnêtement. Là. Moi, j'en ai vu un dans un restaurant. Je sais pas d'où il sortait, mais il aurait pu se battre contre des gorilles en Afrique sans aucun problème, tellement qu'il était immense. C'était pas un petit policier. Puis quand ils sont débarqués, ils ont fait des arrestations hyper rapides. Donc, il y avait de l'information de l'intérieur. Là.
Exact.
C'est clair.
C'est encore plus facile quand on se souvient que le BFM, il se rebiffe contre la taxe parce que depuis des années, il travaille pour qui? Pour les Hells. Les Hells, eux, ils ont tout. Ils savent où est-ce qu'ils leur ont livré des armes, ils savent où est-ce qu'ils leur ont livré de la drogue, ils savent tout. Fait que le jour où t'es pas gentil avec moi, moi parler à mon grand frère, puis mon grand frère, il va t'arrêter. Fait que c'est vraiment, c'est simple. Là. C'est simple pour les Hells parce qu'ils savaient tout. Aujourd'hui, ils se parlent plus. Donc là, il y a quelqu'un qui a mentionné dans une entrevue qu'ils recrutent beaucoup le BFM. Oui, probablement, mais est-ce qu'ils recrutent de la qualité? C'est là où, pour eux, ça ne peut pas durer longtemps. Là. Ils recrutent n'importe qui. Ah, toi, tu as déjà vendu, toi, tu es un tas. C'est pas tout le monde qui a les nerfs pour le faire. Et comme là, il y a un petit garçon de 14 ans qui est décédé, puis qui avait un ami avec lui d'à peu près le même âge, qui s'est fait rencontrer par la police, puis il n'était pas gros dans ses shorts, cet ami-là.
On va en parler d'ailleurs tantôt. Juste avant, dans ton temps, ça coûtait combien de tuer quelqu'un?
Ben, Galant, je vais me fier à Galant. Moi, j'ai jamais eu le... Mom, c'est passé de 250 à 750 000. Mom, c'était la cible là, quand Raymond est revenu en 2001.
Il y a quelqu'un qui voulait payer 750 000 Raymond. Pour tuer Mom Boucher, puis c'était Raymond Desfossés.
Oui.
Hey, c'est du cash en sacrifice, ça.
Il n'en manque pas.
OK. Puis, mettons, quelqu'un qui est un individu sans importance. Mettons, un animateur de radio sans importance de Québec, là. C'était
Mom
combien?
Boucher, je sais pas si c'est sorti dans les notes de cours de Godasse et tout ça, mais les gars qui ont essayé Michel Auger, c'était pas des grosses affaires, là. C'était des 5 000. Puis...
C'est ça. Ben, c'est ce que j'avais entendu. Ouais. Entre 5 et 8 000 $ on pouvait tuer quelqu'un. Là, j'ai parlé avec un ex-enquêteur qui était au crime organisé il y a de ça une semaine à deux semaines de mémoire. Et lui me racontait qu'à Montréal, dans les rues de Montréal maintenant, si tu veux faire abattre quelqu'un, c'est moins de 1000 $. C'est fou quand on y pense.
Oui, oui. C'est parce que tu as une quantité de gens qui ne savent pas quoi faire et qui pensent qu'ils vont devenir quelqu'un en faisant ça. Mais souvent, ces jobs-là ne se font pas. Là. On n'est pas à 50. La moyenne de meurtres à Montréal pendant des années, c'était 50 à 60 par un par semaine. Là, on est dans le 30. Puis dans ça, tu comptes monsieur qui tue sa femme. Tout est compté dans ça. Là. Fait que le meurtre est beaucoup diminué à Montréal. La violence a beaucoup diminué. Là, il y a une reprise. Est-ce que ça va durer? C'est parce que c'est des jeunes, les gangs de rue sont plus crinqués, ça fait beaucoup plus peur, puis ils peuvent faire beaucoup plus d'erreurs, tirer la mauvaise personne, puis ou avoir peur, puis se mettre à tirer dans le tas d'un restaurant. Puis Galant, lui, il tirait la bonne personne. Il y a eu une serveuse qui a été atteinte, mais lui, il visait bien, puis il était calme. Mais ces jeunes-là, fait, oui, il pourrait y avoir du dérapage, mais pour l'instant, on est toujours dans une année basse en termes de violence, puis je ne penserais pas que ça... Par contre, ces jeunes-là, il y en a même, ce que j'ai lu dans les gangs de Montréal-Nord, que c'est il faut qu'ils fassent leurs preuves. Les Hells avaient ça aussi, mais c'était différent. Eux, ça peut être jusqu'à aller dans un autobus puis aller piquer quelqu'un dans un autobus.
Pour montrer que c'est pas des policiers infiltrés, là.
Oui, non, pour montrer qu'ils sont hot, qu'ils vont être capables de faire la job, de prendre un inconnu, puis de...
Parce qu'un policier infiltré ne peut pas faire de crime.
Non, c'est bien tannant, ça.
C'est bien tannant, hein? Donc,
moi, j'ai été infiltré, puis par contre, quand il t'infiltre, il te donne un salaire. Fait que ça a été moins pire. Là,
mais t'avais plus le droit de contrevenir à la loi, sans quoi, exact. Si ça sortait en cour, ta crédibilité était minimisée. Là.
Exact. Et moi, c'est le bout le plus long, c'est avant le contrat. La négociation a duré 6 mois. Ben, la négociation... Eux, ils avaient deux personnes dans leur mire pour infiltrer Raymond. Moi, j'étais un des deux, mais les deux, on ne sait pas qui était l'autre. Puis à l'époque, on ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre. Fait que moi, j'attendais, puis j'avais un handler qui me rencontrait régulièrement. Puis oublie pas, il ne faut pas que tu fasses rien là, d'ici à l'opération. Faut pas que tu fasses... Ouais, mais je ne suis même pas signé, là. Je ne sais même pas si j'ai une opération. Et là, je mange comment, moi? Ben, on sait, bon, va travailler, faire autre chose. Mais moi, j'avais tous mes chums qui me demandaient pourquoi je faisais plus rien avec eux autres, puis tout ça. Puis, fait que ça a été une période compliquée.
Ouais. Ton handler, il te rencontrait où, hein, pour te donner de l'information, pour te confier tes prochaines missions, les mots, tu sais, parce qu'on te donnait comme un code de mots qui faisait en sorte que tu attendais à ce que Raymond réponde telle ou telle affaire, de ce que je comprends, c'est ce que tu m'avais expliqué la dernière fois. Et il te rencontrait comment? C'était-tu dans des motels, comme dans un film, mettons?
Motel, je pense que c'est arrivé une seule fois, mais non, on avait un safe house. Pendant l'opération ou avant?
C'était un safe house?
Oui. Pendant l'opération, moi, j'ai eu un appartement de service, un appartement à Montréal, et il y avait un autre appartement en plein centre-ville, au 15e étage d'un édifice, qui était un safe house. Puis le handler n'est jamais seul, c'est toujours trois personnes, deux policiers plus un troisième, et fait que c'est trois policiers, là, mais il y en a un qui a une charge différente. Puis les deux autres, ben, c'est les enquêteurs au dossier qui montent le scénario du jour ou du lendemain ou quelque chose comme ça. Fait que c'était un pagette à l'époque, puis ils me donnaient l'heure à laquelle je devais me rendre. En premier, ils m'ont montré le safe house. On est allé ensemble. Il y a beaucoup de souterrains. Fait que je me rends dans un souterrain, dans le parking, et là, ils m'embarquent. Ils sont toujours plus que... jamais seul, toujours deux. Et là, ils m'embarquent dans le minivan, puis là, ils m'amènent à l'autre endroit. Ils s'assurent qu'ils sont seuls, qu'ils ne sont pas suivis. Puis c'est là que je disparais pendant X heures pour aller faire la préparation.
Ça, c'est weird quand tu le vis, là. T'sais, moi, je ne l'ai pas vécu. Je vis ça au travers Hollywood. Toi, tu l'as vécu. Là. Ça devait être stressant. Tu devais regarder toi aussi si vous n'étiez pas suivi. T'sais, tu m'avais raconté à un moment donné que tu avais ton micro directement sur le cœur.
Oui.
Puis que Raymond Desfossés, avec ses deux doigts, tenait à te dire quelque chose. Puis il te touchait avec ses deux doigts en te tapotant le chest. Je veux dire, moi, à ce moment-là, c'est exactement là où j'aurais fait une crise cardiaque, mettons.
tu transpires, en tout cas. Tu transpires. Mais ouais. T'as pas le choix, t'es dans le game, t'es là. Moi, je sais ce que je fais. C'est là que tu dis, bon, ben on va voir. Puis là, tu calcules tes options. S'il touche, s'il se pose des questions, si tous les scénarios sont... Il a pas touché. Tu continues tout va bien.
Tu continues tes affaires.
Oui.
Est-ce que...
Mais tu fais changer le micro.
Oui, j'en doute pas. Moi, je l'aurais pas mis là, en tout cas. Là. J'aurais mis ailleurs, là, une place que Raymond Desfossés n'aurait pas voulu toucher.
Mais d'un autre côté,
là que je l'aurais mis.
C'est rare qu'on se touche le chest ou que tu sais, quand tu fouilles... je sais pas. Mais c'était pas un
t'avais pas
plan.
Été fouillé cette fois-là?
Non. Jamais été fouillé par Raymond.
Jamais.
Une chose qu'on n'a pas dit dans la première entrevue, on avait bifurqué comme on fait des fois, et Raymond, un moment donné, j'avais dit, « Ouais, mais moi, je suis inconnu de tout le monde. Pourquoi tu me présentes du monde? Moi, je le connais pas. Lui, il a peut-être... Il était venu bleu marin, il m'avait regardé, il m'avait foudroyé du regard, comme on dit. Il dit, « Si je t'amène quelqu'un, tu lui fais confiance comme à moi. »
OK.
Lui, c'était sérieux, tout le monde... Lui, il y avait un honneur dans ça. C'est le monde qui me présentait. Quand tu vends de la drogue, tout ça, tu as toujours un maillon faible quelque part où quelqu'un est connu. Ton fournisseur, il est connu dans son pays. Les gens à qui tu vends pourraient être connus. Même si toi, tu pars demain matin, tu travailles au gouvernement, tu n'as jamais rien fait, tu t'en vas au Mexique, tu dis « je vais ramener un kilo ». Quand tu arrives, tu es inconnu, tu as ton 4 kilos que tu as réussi à rentrer au Canada, ça vaut de l'argent, je vais le vendre, et tu vas tomber dans la mire des policiers rapidement parce qu'il y a quelqu'un à qui il faut que tu parles qui, lui, peut être la mauvaise personne. Fait que c'est très compliqué. Moi, j'étais pas connu, surtout dans la drogue, parce que je faisais d'autres choses. Fait que quand il s'est mis à me dire « tu vas faire ça, tu vas m'aider dans ça », ben là, j'ai dit « moi, mais... » Ton plus gros atout, c'est que je ne suis pas connu. Pourquoi est-ce que je parlerais à quelqu'un? Non, ça, c'est mon monde. Ils sont tous sécuritaires.
T'es-tu rendu avec un schéma de méfiance depuis ce temps-là?
Moi?
Ouais, schéma de méfiance. C'est-à-dire, tu sais, parce que tu as côtoyé ce milieu-là, les policiers ont embarqué dans la danse. Bon, Raymond a été déclaré coupable, puis maintenant, il est rendu décédé. Il y avait un montant qui avait été sur ta tête aussi parce qu'il te voulait mort. Est-ce que tu as développé comme un schéma de méfiance envers les individus qui t'approchent?
Non,
ou aujourd'hui?
J'ai toujours été confiant. J'ai toujours approché la vie avec... optimisme, positivisme. Ouais. Je crois dans le meilleur des gens plus que le moins bon. Le moins bon arrive, mais c'est toujours... Le rôle des nouvelles, c'est de montrer ce qui ne marche pas dans la vie. Mais 99% des choses marchent. Le monde est fin. Là. En prison, c'est toujours la pire affaire. Tout le monde... toute façon, les citoyens, c'est tous des crosseurs pareils.
Non, ah
ouais. Non, non. Ma tante qui fait des petites pantoufles en Fantex ouais. pour tous ses petits-enfants à Noël, elle fait jamais rien fait de croche.
Mais quand tu étais avec des fossés, nécessairement, il fallait que tu te méfies. Je veux dire, quand, avec tes déplacements. Là, exemple, quand il est parti, et, bon, on ne sait pas s'il était parti en voyage d'affaires ou s'il était parti en vacances tout simplement, mais il t'avait dit, c'est 44, tu vas me remplacer, voici les tâches que tu as à faire. Tu devais regarder dans le rétroviseur quand tu conduisais ton véhicule en te disant « OK, ce char-là, là, ça peut-être un char de flic. Ce char-là, ça peut-être un char de méchant. » Tu devais te poser ces questions-là?
De méchant, non. De police, oui. Puis j'en ai trop... J'ai été suivi à quelques reprises, puis deux fois, je les ai découverts. Mais de méchant, non.
T'es-tu allé porter des bananes là, dans l'exhaust?
Non.
Non? Non,
non j'ai pas fait ça. Alex Foley, non.
Non.
Non, mais des méchants, non, parce que j'étais... dans ma tête, ou à ce moment-là, protégé, parce que je travaillais pour Raymond, donc il n'y avait pas...
T'avais cette aura-là au-dessus de toi qui te protégeait, puis même si les flics étaient autour, ça te dérangeait pas, parce que Raymond avait des contacts avec les flics.
Non, 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 à cette époque-là, non, Raymond n'avait plus ses contacts. Ben, plus, en tout cas, le contact majeur qui s'est suicidé en 92. Fait que quand il revient en 2000, ça, c'est sa carte maîtresse qui lui manque.
Okay.
Raymond. Ça, ça a été un gros coup. C'est pour ça qu'il n'y a pas aussi... longtemps duré et qui s'est fait tasser tranquillement, qui ont essayé de le tasser tranquillement, puis finalement, il a donné son... Il a vieilli, il a été malade aussi, ça l'a beaucoup ralenti, et ça lui a fait voir qu'il y avait d'autres choses à faire dans la vie que de toujours être sur la route, que rester à la maison, c'était une bonne chose. Mais non, j'ai pas... La police, t'as pas peur de la police. On est au Canada, là, ils vont pas me battre, ils vont m'arrêter, puis faire de la prison, mais ils vont pas me battre, ils vont pas me... Par contre, tu veux pas, t'es juste prudent. T'es pas paranoïaque, mais t'es prudent. Fait que là, on fait beaucoup de manœuvres, lui, il m'avait donné des trucs, puis de regarder les autos, puis on fait des manœuvres, puis à l'époque, je conduisais très vite, j'ai perdu mon permis, je sais pas combien de fois. Montréal-Québec, c'est 1h15 ou plus. Fait qu'on, en pleine ville, des U-turns, des manœuvres que s'il y a du monde en arrière de toi, là, soit qu'ils sont fourrés puis qu'ils te perdent, soit que tu sais c'est qui. Fait qu'on... C'était pas fatigant. C'était pas... Puis j'ai jamais été dans la guerre à proprement parler. Moi, j'étais à l'extérieur, je trouvais des adresses, des choses comme ça, mais je faisais pas partie de la guerre. J'ai pas...
Fait que tu n'étais pas stressé plus qu'il faut.
Non.
OK. Est-ce que, Raymond est défaussé et décédé. Moi, j'ai eu vent de ces derniers jours où ses chums, ses anciennes connaissances allaient le voir pour lui dire, bon, ben regarde, on a eu une belle vie. T'étais mon chum, merci beaucoup, bye-bye. Est-ce que toi, t'as pensé l'appeler?
Compliqué, là. J'ai appelé, j'ai su qu'il était stable et en forme. J'aurais parlé à sa femme avant de lui parler à lui.
Okay.
J'aurais pas. J'ai toujours eu dans ma tête, je l'ai dit après l'opération, s'il me recroise, un, soit qu'il essaie de me tuer, deux, il était suffisamment intelligent pour comprendre que j'avais pris le bon bord, que j'avais été un traître, mais pas pour mes raisons à moi, puis que moi j'étais sorti de là, que. C'était son erreur, finalement, qu'il avait mal choisi en me choisissant moi. Il avait mal fait sa job, il avait mal choisi. Donc, je pensais qu'il était assez intelligent pour reconnaître ses erreurs, puis que finalement, parce qu'on avait déjà eu des meilleurs liens, il aurait pu dire, tu m'as coûté cher, tu m'as tout fait ça, mais je comprends, puis qu'on aurait pu avoir une conversation. Mais c'est peut-être dans mon monde d'éléphant rose et de lunettes roses que finalement, non, il n'y aurait pas...
Mais tu n'as pas pensé de l'appeler?
Oui, j'ai pensé beaucoup de choses. J'ai failli, là, je m'avance dans le prochain livre, là, réellement, dans ma tête, puis la police le sait, j'ai failli lui dire que j'étais un informateur quand je l'ai vu la première fois. Quand je suis rentré, quand j'ai eu le contrat, là, j'y ai pensé en titi, un message codé, lui dire pour qu'il ait la chance de s'en sauver. Finalement, je ne l'ai pas fait. Et
très parce qu'il aurait pu t'utiliser à ce moment-là. Là.
Exact. Ouais. Et ça aurait été compliqué, mais c'était pas impossible. J'avais fait un travail dans ma tête de voir là, gagner sur les deux tableaux. Lui, il m'aurait récompensé pour ce que j'avais fait.
Puis la police t'aurait récompensé pour ce qu'elle pensait que tu allais faire.
Exact. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis content de ne pas l'avoir fait. Depuis ce temps-là, je n'ai jamais recommis un crime. Je suis sorti de là complètement. Content de ma vie. Les choses vont bien. Donc, l'appeler en fin de vie, j'y ai pensé. Je ne l'ai pas fait pour sa famille autant que pour lui.
Parce que malgré tout ce qui s'est passé entre vous deux, la première fois où moi je t'ai rencontré, puis même en lisant ton livre, je sens que tu avais un respect pour cet homme-là.
Toujours.
Malgré le fait que c'était quelqu'un qui pouvait être épouvantable, qui a commandé des meurtres et tout ça, avec toi, il semble avoir été droit du début jusqu'à la fin.
Avec tout le monde, les meurtres qu'il a commandés, c'était très probablement une bonne chose que ces gens-là ne soient plus là. C'était, il a fait tuer du monde.
Mais t'as pas le droit de le faire.
Non, c'est exact.
Ça. Fait que quand même que c'était des gens gentils, moyennement méchants, on n'a pas le droit exact. De faire ça, on n'a pas le droit de se faire justice nous-mêmes. Et, mais je comprends. Tu vouais quand même un certain respect à cet homme-là qui avait été bon, puis malheureusement, tu l'avais trahi. Donc moi, mon réflexe aurait été de l'appeler à la fin de sa vie pour lui dire, regarde, voici les raisons pour lesquelles je l'ai fait, mais toi, t'as pas jugé bon de le faire. OK. On revient à notre guerre d'aujourd'hui parce qu'il semble y avoir plusieurs gangs de rue. Avant, on disait que c'était le BFM, qui Blood Family Mafia, qui voulait prendre de l'espace au Québec, tasser un peu les Hells Angels, cesser de payer la fameuse cote de 10%, comme tu nous as dit tout à l'heure. Là, dans les dernières semaines, on apprend qu'il y a des gangs de rue qui voient que les Hells Angels à Québec semblent très affaiblis et qui veulent être le troisième homme ou le quatrième homme dans la danse. Et ce serait les Arab Power, de ce qu'on comprend dans le secteur de Montréal. Et ces gens-là auraient commandé ce qui s'est passé en Beauce à Frampton par l'entremise d'un genre de club-école qui s'appelle Everybody Gets Killed, donc E-G-K. Et eux, ils emploient des jeunes garçons, dont un jeune garçon de 14 ans, puis un autre individu qu'on pense être un peu plus âgé parce qu'il semblait avoir son permis de conduire. Ces gens-là seraient descendus vers Québec, auraient bifurqué vers la Beauce, seraient arrivés à Frampton, lourdement armés. On parle d'armes qui s'apparentaient à des AK-47. Aurait ouvert le feu sur le bunker des Hells Angels. Les policiers auraient eu vent de ça, seraient arrivés sur place, auraient découvert un véhicule qui était en train de brûler. Et à quelques pas de là, ben, il y avait le corps d'un jeune homme de 14 ans qui avait été démembré et mutilé plusieurs fois. Tellement que quand les policiers, puis ça c'est des sources policières qui me l'ont mentionné, quand les policiers ont tenté d'identifier visuellement cet individu-là, on ne savait pas à quoi il ressemblait. On savait pas si c'était un motard ou si c'était un membre de gang de rue. C'était difficilement identifiable à ce qu'on nous a dit. Et ce que mon contact m'avait dit, c'est que seul l'ADN allait prouver que c'était bel et bien la personne qui était portée manquante à Montréal. Parce que c'est des membres de... Je pense que c'est de ses amis qu'on a commencé à se poser des questions, à savoir il est où cet individu-là. Les policiers ont eu vent de ça. Ils savaient qu'il faisait partie d'un groupe de jeunes criminels. Puis ils ont fait ni une ni deux. Ils ont dit « Ah, c'est possiblement lui, mais ça prenait un test d'ADN. » Donc, c'est les parents de cet individu-là qui ont été appelés pour la prise de sang pour que l'ADN puisse être comparé. Mon hypothèse, mon ami, C-44, c'est que ce ne serait pas les Hells Angels qui auraient commis ce meurtre-là. J'ai l'impression qu'on voulait affaiblir encore plus les Hells Angels en mettant les autorités policières sur ce club-là, en disant « Voyez ce qu'ils ont fait. Ils ont tué un pauvre jeune innocent de 14 ans. » Moi, je pense que c'est le gang criminalisé à Montréal qui ont démembré le jeune puis qui l'ont mis sur place. C'est pas les Hells Angels qui ont fait ça, j'en suis persuadé. C'est pas leur modus operandi. C'est exact. Le modus operandi des gangs de rue. C'est le modus operandi des groupes criminalisés qui sont plus en Amérique du Sud aussi. On voit ça régulièrement.
Dans d'autres pays et d'autres façons de penser.
Exact. Ce serait une première là, que les Hells Angels s'attaquent intentionnellement. Il y a eu le petit Daniel Desrochers là, qui avait été tué, mais c'était pas intentionnel. Exact. Là, je veux dire, il y a une marge entre te défendre, tirer sur quelqu'un qui te tire dessus, puis après ça, le découper. Là.
Il y a deux choses. Ta théorie est excellente et c'est fort probable. Par contre, la médecine légale va dire depuis combien de temps il était mort, s'il a été déplacé mort ou vivant. Ils vont en savoir beaucoup plus. Ça peut être long. C'est, la médecine légale, c'est jamais rapide. Mais ça peut être long, mais ils vont en savoir beaucoup plus. Le seul point où les Hells pourraient être on sait que dans la dernière année, pendant qu'on n'en entendait pas parler, il y a eu un paquet de gars qui se sont fait faire des brûlures, se sont fait torturer. Puis c'était des gars des Hells ou proches des Hells ou des sympathisants ou du monde qui vendait pour eux qui se sont fait brûler par justement...
Et mutilés, là?
Et mutilés par le
BFM. Testicules, oreilles,
exact.
Nez.
Exact. Fait que s'ils ont leur tas, comme on dit en bon québécois, ils ont pu dire, toi, tu vas faire l'exemple. Mais je suis... J'irais plus de ton côté, je serais surpris que ce soit les Hells qui aient fait ça. C'est devenu, moi, je dis la maturité. T'sais, ils étaient jeunes, Mom Boucher, puis tout ça. C'était un club qui commençait, qui prenait du galon, ils recevaient leur drogue, puis là, ils voulaient se rebeller, puis ils voulaient passer au second niveau. Ça a pris du temps quand même après. Là. Quand Raymond est revenu, là, il y a eu de... sa sentence de 13 ans. Quand il est sorti, il y en avait encore du pouvoir, puis c'est là qu'il a donné son contrôle. Et pendant toutes ces années-là, on entendait Vito qui revenait lui aussi de prison. Ils ont eu quelque chose de similaire, se faire arrêter plusieurs années après un meurtre, se faire extrader et ensuite revenir au Canada. Les deux ont la même chose. Et des histoires de boss, il faut croire, mais avant d'être boss, tu vas faire le meurtre pour quelqu'un. Vito l'avait fait pour son père et pour l'organisation. Ouais. Raymond l'avait fait pour Alan Ross. Alan Ross l'avait envoyé. Mais ensuite, quand tu gradues, et c'est là où j'en suis que les Hells ont gradué, ils sont matures, ils ont accumulé de l'argent pour les leaders et ils ne veulent plus la perdre. Fait que la violence, non. Parler à la police de plus en plus, oui. On va s'assurer qu'on reste tranquille, qu'ils nous laissent tranquilles en les aidant le plus possible. Fait que tout ça, ils sont rendus là. C'est le club mature ou l'importateur mature présentement. Les Italiens, on les entend moins, mais ils n'ont pas arrêté. Ils peuvent être dans d'autres choses, dans le crime plus de col blanc. Mais ils continuent. Mais présentement, le plus gros importateur, selon moi, pour le Québec. Et toi, tu parles souvent de la ville de Québec. Moi, je parle du Québec. Québec, c'est une plaque importante de vente, mais ça vient de Montréal. Et ces gars-là à Montréal veulent la tranquillité. Ils s'exportent, ils s'en vont à Cancun. Là, il y a eu un reportage récemment. Et c'est un bel endroit pour blanchir, pour acheter de l'immobilier qui va prendre la valeur à d'autres noms, à des noms fictifs. Là-bas, tu peux créer une fondation et tout mettre dans ta fondation et tu ne seras jamais dérangé par ça. Les lois changent, mais il reste encore de la place. Et
on Mexique, voit que ces 44 s'informent encore.
C'était plus mon domaine, le blanchiment de ces affaires-là.
Ouais.
Mais oui, je reste au courant. J'y touche plus. J'ai plus de contact personnel à part la GRC, des amis, des policiers comme ça. Mais je suis plus sur le monde de la rue. Là. J'ai plus un vieux chum qui vend à gauche, à droite, qui vient me dire qu'il s'est passé. Ça, je ne l'ai plus. Mais je suis assez informé quand même.
C44, tu me permets-tu de faire une pause?
Avec plaisir.
Je rappelle qu'on est avec C44 ce soir. C'est l'auteur du livre A1, l'invisible, qui est encore disponible dans toutes les bonnes librairies.
De plus en plus.
Puis là, ce soir, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit le deuxième volume, c'est ça?
Exact.
Ben, voilà. Je pose des bonnes questions ou pas? Là?
Ouais. Très, très bien.
Ouais. Je te fais-tu trop parler ou pas?
Pas du tout.
C'est correct? Bon. Tu me le diras pendant la pause. OK. On fait une courte pause, puis on vient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le midi.
Salut, c'est Marceau. Vous le savez, ce vendredi, au Centre Horizon, je me bats contre Steven Sullivan, alias Gros Gorille, de la Ligue NSPW pour amasser des fonds pour la fameuse bouchée généreuse. La gang de Boulevard 102.1 va être présente et le groupe Big Muff Party Band va être là aussi et vous donnera tout un show. On parle d'un show rock des années 90 à 2000. Bref, une soirée pour venir me huer et ou m'acclamer. L'important, c'est de remettre un beau montant aux gens qui ont besoin d'un coup de pouce pour manger à leur faim. Achetez vos billets sur lepointdevente.com et l'argent, tout l'argent des billets va être remis à l'organisme La Bouchée Généreuse. Donc, un rendez-vous ce vendredi, 20h, au Centre Horizon.
Pour ton rattrapage de Marceau le midi, rends-toi sur le blvd.fm et l'application mobile.
Boulevard 102.1. À Québec,
un Ford, ça se manchait déjà d'un Ford.
L'événement Prix Employé se poursuit en septembre et c'est votre dernière chance d'en profiter. En incluant les remises gouvernementales, obtenez jusqu'à 12 000 $ en ajustement de prix total sur l'Escape hybride rechargeable 2024 et jusqu'à 16 500 $ sur le Mach-E Premium 2024. Desjardins Autocollection, rue Marais à Vanier.
À Québec, un Ford, ça se
Prolongez l'été avec le meilleur de la restauration sur Grande Allée. Un bon cocktail, un tartare, une ambiance incontournable, c'est l'Atelier. Savourez un repas entre amis ou réservez pour votre party de bureau. Et pour une expérience terre-mer incomparable à Québec, c'est au restaurant Ophélia. Laissez-vous séduire par nos plats soigneusement préparés et notre carte de vin d'importation privée. Venez profiter de nos terrasses couvertes et chauffées. L'été n'est pas fini à l'Ophélia et l'Atelier. On se donne rendez-vous sur Grande Allée.
OK, Patricia, si je te parle de synergie, de professionnalisme, d'authenticité, de compétences en immobilier à Québec.
Ben c'est facile. Tu parles de mon équipe.
Chez Patricia et son équipe, on s'occupe de tout. On s'occupe de vous, de A
à vente.
PatriciaetSonÉquipe.com.
Du 22 au 28 septembre, nous célébrons la Semaine nationale du personnel de soutien scolaire. Reconnaissons le travail essentiel du personnel administratif, manuel, technique et paratechnique dans nos écoles et dans nos centres. Prenons le temps de dire merci au personnel de soutien scolaire pour tout ce qu'il accomplit au quotidien. Ces personnes font la différence dans la vie des enfants, des étudiants, des parents et des autres membres du personnel. Un message de la Fédération du personnel de soutien scolaire, CSQ.
En 1949, les véhicules étaient loin d'être parfaits. 75 ans plus tard, ils ne sont pas encore parfaits. Mais heureusement, pour les réparer, les entretenir et bien les chausser, il y a des harnais. Et avec l'offre de paiement sur 6 mois sans frais ni intérêt, c'est juste parfait.
Jusqu'au 20 décembre, obtenez une remise allant jusqu'à 100 $ à l'achat de 4 pneus Nokian Tires sélectionnés. Pour la tranquillité d'esprit en toutes circonstances, Nokian Tires, c'est un parcours exceptionnel. Détails et prise de rendez-vous sur desharnais.com.
Desharnais, 75 ans et plus jeune que jamais.
Portes et fenêtres Québec, le détaillant spécialisé Fenplast depuis 35 ans. Fenplast est chef de file dans l'industrie des portes et fenêtres au Québec et fabricant numéro 1 selon le magazine Protégez-vous en 2024. Pour un temps limité, Fenplast offre un rabais de 12% sur ses produits. Subvention Réno-Climat et prêt sans intérêt de 40 000 $ sur 10 ans. Financement sur place. Faites vite, nos dates d'installation s'envolent rapidement. Passez chez Portes et fenêtres Québec, les experts recommandés par CAA Habitation. Trois boutiques dans la grande région de Québec pour mieux vous servir, à Lévis, à Beauport et à Québec, rue Marais, voisin du métro Ferland.
Cet automne, le Stroms-Spa nordique vous invite au calme et à la détente. Immergez-vous dans la saison des rituels et obtenez 15% de rabais sur tous les forfaits. Détails au stromspa.com.
C'est lequel ton plat favori chez Cora?
C'est celui à 15 $.
Ben là, t'es drôle, toi. L'omelette épinard cheddar est à 15 $. La gaufre aux bananes est à 15 $. La cassolette 10 étages est à 15 $. Le bénédictine jambon est à 15 $. Et le déjeuner surprise est aussi à 15 $.
C'est en plein ça. Celui à 15 $.
Venez savourer l'un de nos 5 plats à seulement 15 $. Jusqu'au 6 octobre, en salle à manger seulement. Moi, je déjeune chez Cora avec la promotion Nos favoris à 15 $.
Allô, Nissan? Oh, il y a de l'action ici?
Oui, c'est la liquidation Nissan. Karine, parle-en à tes cousins, tes voisines, tes amis. On invite tout le monde à profiter d'offres de location exceptionnelles.
Comme?
Comme la fougueuse Nissan Sentra et le Nissan Rogue avec traction intégrale de série offert à un taux de location à partir de seulement 0,99%.
Oh!
Ou l'économique Nissan Kicks à partir de 2,99%. Ils sont tous en stock et prêts à partir.
OK, donc c'est le moment ou jamais de prendre la route avec Nissan.
Oui, parce que toute bonne chose...
a une fin.
La liquidation Nissan, c'est jusqu'au 30 septembre.
Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
Boulevard. Saviez-vous que Denis Gravel a presque été champion de génie en herbe avant de faire de la radio? Et que Max Larouche adore se faire tatouer les numéros de joueurs de hockey? Ah! Maintenant, vous le savez.
Puis on parle aussi d'affaires pertinentes.
Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
On passe la soirée en compagnie de A1 l'Invisible, pas A1 l'Invisible, excusez-moi, l'auteur de A1 l'Invisible, son prénom et son nom de famille, c'est C44. Vous allez me dire, il y avait des drôles de parents. Ah ben, que voulez-vous? C'est la vie. C44 qui a eu une drôle de vie. Aujourd'hui, il semble avoir une belle vie, ça semble bien aller pour toi. Bien content pour toi, d'ailleurs. Merci beaucoup de passer en studio. On parlait des Hells Angels tantôt. Tu sais, on dit que les Hells Angels ont été affaiblis. Moi, dans les dernières semaines, je sais que les clubs de l'Ouest semblent s'informer de ce qui se passe dans la province québécoise. On dit qu'il pourrait peut-être y avoir une grosse guerre qui s'en vient parce que les Hells ne veulent pas perdre leur place qui leur est due, selon eux, au Québec. on craint un peu le pire. T'sais, on parlait tantôt là, que ça serait pas le temps pour les Hells Angels d'être accusés d'avoir tué un enfant de 14 ans. Je veux dire, c'est attirer l'attention pour rien. Là, il y a un enfant de 14 ans qui a été retrouvé en Beauce, démembré. C'est comme, mais merde, pourquoi les Hells auraient fait cette affaire-là? T'as-tu l'impression que les Hells pourraient être plus affaiblis? Parce que là, t'avais le BFM, t'avais les Arab Power qui sont dans le secteur de Montréal, puis t'as quand même un genre de club-école, là, des Everybody Gets Killed, qui sont des très, très jeunes. J'ai l'impression que les Hells Angels vont faire comme l'Empire contre-attaque. Là. À un moment donné, c'est fini, c'est terminé. Si vous ne nous lâchez pas, ça va être fini pour vous autres.
Pour l'instant, je suis pas d'accord avec le terme qu'ils sont affaiblis. C'est ce que les gens disent. On voit que...
Mais c'est ce que les gens disent. Mais moi, mes sources au niveau des Hells, là, c'est qu'il y a eu beaucoup de hang-around puis de strikers qui ont dit, écoutez, on regarde ça aller... Moi, je l'aime, ma femme, ça me tente pas qu'elle disparaisse. Je les aime, mes enfants, ça me tente pas qu'ils disparaissent. Si ça vous fait rien, on reviendra dans deux mois si tout est passé. Là. T'sais, ils vont avoir de la difficulté à recruter. Je veux dire, c'est quand même gros là, ce que BFM ont fait, c'est-à-dire de diffuser des actes de torture sur des strikers ou sur des hang-around pour essayer de dissuader les autres. Ça a eu son impact, là, veut pas, là. On n'est pas tombé sur Gamache, là.
Non.
Mais on est tombé sur des strikers autour, puis on les a fait souffrir. Écoute, se faire arracher une oreille, là, live. Ah, oui. Là, c'est, tout le monde a regardé ça sur leurs réseaux sociaux, puis ça peut dissuader quelqu'un de dire wow, finalement, je pensais faire ça de ma carrière, mais je vais peut-être aller réparer des chars.
De l'autre côté, ça peut aussi dire eux autres, ils vont payer parce qu'on sait qu'ils sont puissants et qu'ils sont forts. Fait qu'il y a ça et. Ça, le mot que tu as utilisé, recruter, ils vont avoir de la misère à recruter, je ne croirais pas. Moi, ce que je pense, c'est que c'est comme ça que ça va finir. Ils vont laisser aller un petit peu. Là, la police, aujourd'hui, sans policiers partout au Québec, ils arrêtent du monde. Ils vont les affaiblir, les autres gangs, par les policiers. Et ensuite, les patrons des Hells, selon moi, ils vont aller voir les vrais boss de ces gangs-là. Puis ils vont s'asseoir, puis ils vont dire... On va te donner tes couleurs. Au Québec, on l'a fait. Là,
mais je veux dire, il y a un Hells Angels noir. Il y en a eu un. Là, il semble avoir des petites problématiques. Là. On a essayé de le tuer dans un stationnement. Est-ce qu'on pourrait rouvrir la porte encore à plus de noirs chez les Hells Angels? Ils n'auront pas le choix. S'ils veulent s'associer, il va falloir que ceux qui sont un peu, ça fait drôle à dire, mais des racistes chez les Hells Angels, il va falloir qu'ils ouvrent leurs horizons. Là.
Exact, mais on est la première et la seule province dans les textes fondateurs des Hells Angels aux États-Unis. C'était raciste. C'était pas de noirs. Dans le texte fondateur, le Québec, société distincte, on a eu le premier Hells Angels noir et on l'a fait. Et là, arabe ou noir, Montréal-Nord, les Hells vont aller. Tu peux aussi donner les couleurs à quelqu'un sans lui donner.
T'as l'impression qu'ils pourraient s'associer comme ils ont fait avec les Rock Machines dans le temps.
Exact. Ils pourraient recruter par leurs ennemis en disant, là, on arrête la guerre, puis on va te donner une plus grosse part, toi, aux deux boss. S'il y a trois gangs de rue, les trois boss, on va les voir, puis regarde, calme tes hommes, on va te fournir plus, tu vas faire plus d'argent, tu vas être dans notre gang. Fait que le recrutement pourrait venir de là. Puis il n'y a pas grand monde dans ces gangs-là, à moins qu'ils soient crinqués, durs. C'est des Mexicains qui ont déjà trop de kilos là-bas. Ça, c'est toujours un problème. Là. Quand Donnie Ryan a commencé, c'est parce que Pablo, il y avait trop de kilos. Fait que quand t'en as trop, faut que tu donnes, faut que tu aies un marché. Fait que si c'est quelqu'un qui veut venir prendre tout le marché, la guerre est ouverte, là c'est vrai. Si c'est des Mexicains qui ont des milliers de kilos et des milliers d'armes, ils vont faire venir des jeunes, ils vont être sauvages. Mais on n'en est pas là. C'est des petites gangs, c'est des petites choses qui, eux, voient les Hells encore comme potentiellement la grande affaire. Donc, ils vont pouvoir facilement, une fois que les choses vont s'être calmés, ils vont pouvoir rentrer dans le rang et là, ils vont voir la paye grossir. Fait que, ce serait dur de dire non à cette offre-là pour les patrons, leurs lieutenants, ils ne seront pas contents, mais c'est le patron qui est le patron.
Qui vivra, verra. Hey, ton livre A1, l'invisible, ça parle, ça débute en 75 et ça répertorie toutes les années jusqu'en 92. Ton prochain livre va être de 93 jusqu'à 2004.
Exact.
Ça va être apparaître ça en 2025. Tu vas nous parler de quoi entre 93 puis 2004? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est quoi les chapitres, là?
C'est la guerre. La guerre des Hells... ma rencontre avec Raymond, mon utilité avec Raymond, l'opération Calvette. Je vais donner beaucoup de détails sur l'opération Calvette qui a duré 2 ans. Donc, pas mal tout ça. 93 à 2004, là, c'est le bout où j'étais le plus actif.
Ouais. Les gros acteurs de cette guerre des moteurs-là avec les Rock Machine et les Hells Angels, bon, il y en a plusieurs qui sont partis chez les Hells. Les Rock Machine existent encore, mais pas nécessairement au Québec. Là, c'est peut-être ailleurs. Un gars comme Fred Fauché, ça a purgé sa sentence. Ça fait quoi aujourd'hui? C'est-tu commis de dépanneur? Il fait quoi? On
j'ai pas d'idée. Non, j'ai jamais regardé. J'en avais
parce connu. Parce qu'il semble s'être fait oublier. Les Fauchés, ouais. Ils étaient deux de mémoire. Il y avait Fred, puis il y avait son frère. Puis on n'a pas entendu parler.
Le Dun Guérin est décédé.
Dun Guérin, qui emmenait beaucoup large oui. Là, à Québec, qui s'était fait rencontrer par les policiers, qui s'était fait dire que sa tête était mise à prix. Un bon matin, il décidait de délinger son entrée dans son garage... Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle, ce garage-là. C'est Tempo, un abri Tempo. T'as que ça appelle, puis pauvre, merci, bonsoir, c'est terminé. Après ça, t'en as un autre, on le présente comme étant un ex-trafiquant de drogue, Patrick Lerandeau, qui, à 10h30 le matin, le samedi, était avec sa conjointe, puis il était dans sa rue, puis il y a des individus.